L'été approche, les vacances aussi. C'est le moment de quitter le quotidien, de prendre la voiture ou le train, de faire ses valises et de tracer au plus loin. Que ce soit l'heure de partir à l'aventure ou de se prélasser dans le confort d'un grand hôtel, c'est surtout ce désir profond de partir, qui se réveille. Alors on file, seul, entouré ou en famille, vers une destination pleine de rêves, qui peuvent tout aussi bien tourner au cauchemar. Car malgré ce que nous disent les brochures, les belles images des guides de voyage et les conseils plus ou moins avisés des autres voyageurs, ces vacances ne sont jamais totalement prévisibles. Prenez ce superbe hôtel isolé, si difficilement accessible qu'il semble être la définition même du calme. Il semblerait pourtant que derrière sa façade majestueuse et sa promesse de tranquillité, les choses puissent se faire tristement plus agitées. Prenez aussi ce charmant village, niché au cœur des Rocky Mountains, où la vie semble d'une banalité triviale. À moins que l'on ne puisse entendre l'appel, inquiétant et exaltant à la fois, de la sombre montagne qui la surplombe. Ces vacances, censées être une parenthèse enchantée au cœur de l'été, pourraient alors ne jamais vous laisser rentrer.
Je suis Charles.
Je suis Mathias.
Bienvenue dans le Bureau des Mystères. Fantôme de l'hôtel Stanley. Aux États-Unis, près du parc national de Rocky Mountain, dans le Colorado, se tient un hôtel imposant. Reprenant le style colonial américain, il a été construit pour accueillir les familles très bourgeoises et quelques malades de la tuberculose. Mais son histoire n'est pas celle de tous les hôtels. Durant le mois de septembre 1974, le romancier Stephen King y séjourne avec sa famille. Ses vacances mouvementées donneront le roman The Shining, dans lequel l'hôtel Stanley devient l'Overlook et se construit une solide réputation dans le paranormal. Cette histoire commence au début du XXe siècle, en 1903, lorsque Freelan Oscar Stanley, un riche entrepreneur qui a fait fortune grâce notamment à plusieurs dépôts de brevets, se voit diagnostiquer une forme avancée de tuberculose. Alors pour les plus jeunes de nos auditeurs, la tuberculose c'est une maladie contagieuse et infectieuse qui est causée par une bactérie. Et le plus souvent, dans la majorité des cas, elle touche les poumons et elle entraîne du coup de graves problèmes respiratoires. En 1903, Freelan Oscar Stanley a 54 ans lorsqu'on lui annonce qu'il risque de mourir de cette infection et les traitements proposés par la médecine sont alors plutôt chiches. Il est recommandé de passer du temps dans des endroits où l'air est frais et sec, de prendre le soleil et de suivre un régime alimentaire léger et équilibré. Suite à ces recommandations, Freelan et sa femme, Flora, passent l'été chez un ami à Estes Park, dans le comté de Larimer, dans le Colorado. Les deux tombent immédiatement amoureux de la région et de ses paysages. Ils l'apprécient tellement qu'ils décident de s'y installer, sachant que les docteurs ne lui laissaient, vu l'évolution de sa maladie, pas beaucoup de temps à vivre. Mais après ce fameux été 1903, Freelan va mieux, et sa femme a envie de faire construire une maison comme celle qu'il possédait dans le Maine. C'est ce qu'ils font. À environ 1 km de l'emplacement actuel du Stanley Hotel, il se balade aux alentours de la maison et voit justement un terrain qui pourrait correspondre à ses envies de construction. Il achète le terrain à un lord irlandais, Earl Dunraven, donc ce lord irlandais qui possède ce terrain sur lequel sera construit l'hôtel Stanley. Il le possède depuis une trentaine d'années et il n'était pas forcément très apprécié, Earl Dunraven, des habitants du coin. Il espérait acquérir suffisamment de terre pour construire une réserve de chasse, ce qu'il ne fera pas. Il n'a pas eu accès à tous ses terrains. En revanche, il va quand même construire quelques petits bâtiments pour accueillir des amis, et notamment des amis chasseurs. Il va visiblement pratiquer la chasse de manière illégale sur ce territoire. Pas de cimetière indien, donc, dans l'histoire de l'hôtel qui nous occupe, puisqu'il a été construit sur un terrain presque vierge, où seuls quelques bâtiments du Lord subsistaient. Les travaux démarrent en 1906, et reprennent une architecture du début du 19e siècle qui s'apparente beaucoup à ce qu'on appelle donc le style colonial. Stanley est presque complètement guéri de sa tuberculose en 1907. En 1909, les travaux sont achevés, et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'hôtel ne s'adresse pas à toutes les bourses, puisqu'il dispose de l'eau courante, de l'électricité et du téléphone, ce qui, à l'époque, et notamment dans un coin aussi reculé des États-Unis, au début du XXe siècle, hein, je rappelle, n'était pas si courant. Pour un bâtiment de cette taille, il s'agissait d'une infrastructure vraiment luxueuse. Son seul point faible, peut-être, c'est qu'il a été conçu pour ne fonctionner que durant la période estivale. En hiver, donc, il y fait particulièrement froid, et les 48 chambres qui composent l'hôtel ne sont pas particulièrement habitables. Un incident survient en 1911, une explosion de gaz qui servait à soutenir le système électrique qui pouvait parfois défaillir quand il était trop demandé. Une femme de chambre du nom d'Elizabeth Wilson et plusieurs employés sont blessés dans l'accident. Mais rien de bien paranormal là-dedans. Stanley vend l'hôtel en 1926 à une entreprise qui s'était montée dans le seul but de le reprendre. C'est un hôtel qui avait donc belle réputation. Flora meurt en 1939, Stanley meurt à son tour un an plus tard, en 1940, à l'âge de 91 ans. À cette date, aucun phénomène paranormal n'est recensé, aucun témoignage troublant non plus, rien. En 1974, l'auteur Stephen King et sa femme, Tabitha King, passent une nuit à l'hôtel Stanley. Évidemment, vous pouvez retrouver un tas d'interviews dans lesquelles il raconte cette fameuse nuit qui va inspirer son roman Shining. Il apprendra un malin plaisir à rajouter, inventer des choses au fil des interviews. Ce que l'on sait, c'est qu'il travaillait sur un livre, dont le titre provisoire était Dark Shine, et qu'ils sont arrivés, avec sa femme, à un moment de l'année où l'hôtel allait clôturer sa saison. Le couple est donc quasiment le seul client, et Stephen King se serait alors baladé seul, de nuit, dans un hôtel quasi vide. Cette même nuit, il aurait rêvé que son fils se faisait poursuivre dans les couloirs de l'hôtel par une lance incendie. Et à son réveil, comme il le dit lui-même, il aurait eu l'idée du livre The Shining. L'ouvrage sort 3 ans plus tard, en 1977, et c'est un succès à la fois commercial et critique, qui se verra adapté très rapidement, en 1980, par Stanley Kubrick. Et c'est finalement à partir de là que l'histoire de l'hôtel prend un tournant. Même si c'est en réalité assez difficile de dire à partir de quand les histoires étranges démarrent, ce qu'on peut dire, c'est qu'elles sont toutes récentes et que l'on n'en retrouve pas vraiment trace avant la sortie du livre de King. Ce qui est drôle avec les fantômes supposés de l'hôtel, c'est qu'ils sont particulièrement nombreux. Il y en a presque un dans chaque chambre. Et j'en ai recensé quelques-uns pour toi, Mathias.
Ça ressemble un petit peu au manoir hanté et ses 99 fantômes de Disney. Un peu.
C'est très vrai, ça ressemble un petit peu à ça, ouais. Je sais pas s'il y en a 99, mais en tous les cas, il y en a un sacré bon paquet. Dans la 428, par exemple, dans la chambre 428, il y aurait un gentil cow-boy qui vient parfois s'asseoir dans un coin de la pièce. Mais il part gentiment, si on lui demande, et surtout, il embrasse les vieilles dames qui sont un peu seules. Dans la chambre 401, Lord Dunraven, le propriétaire original du terrain sur lequel est construit l'hôtel, occuperait la penderie et, attention, chose un peu bizarre, caresse les cheveux et les jambes des jolies femmes. On a donc affaire à un fantôme de vieux pervers. Dans la chambre 418, plusieurs enfants blagueurs entraient la pièce principale et feraient bouger des objets pour effrayer les gens de passage. Il existe quelques témoignages autour de cette chambre, notamment une supposée jeune fille de 4 ans qui aurait rapporté à sa mère qu'un petit garçon l'aurait chatouillée pendant la nuit. Encore, la chambre 407 serait habitée par un gentil fantôme également, qui s'amuserait avec les draps et les couvertures. La 217, peut-être la plus célèbre, est celle où Stephen King a dormi. L'adaptation de Stanley Kubrick y passerait aujourd'hui en boucle. À noter d'ailleurs que dans le film, il s'agit de la chambre 237, qui était une demande que de la part de King pour que l'hôtel ne soit pas... que la chambre soit en fait une chambre qui n'existe pas. Il n'y a pas de chambre 237 dans cet hôtel. Donc ça casse un petit peu, pour casser un petit peu le mythe derrière et éviter que l'hôtel se retrouve avec des vrais soucis, comme des gens qui louent la chambre pour faire des bêtises. Au sous-sol se trouve Lucy, une jeune femme vagabonde du XVIIIe siècle qui a l'habitude de fermer brutalement les portes que les voyageurs laisseraient ouvertes. si vous allez dans le salon de musique, vous pourrez entendre Flora, la défunte femme de Freelan. Elle y jouerait vraisemblablement quelques morceaux de piano. L'hôtel possède aussi sa propre médium. Elle s'appelle Madame Vera. Et contre rémunération, elle vous dira votre avenir.
C'est vraiment le manoir hanté de Disney, parce que au manoir hanté de Disney, il y a Madame Léota.
Il y a Madame Léota.
Qui est la médium attitrée du manoir. C'est vraiment le manoir hanté de Disney.
Est-ce que Madame Léota travaille avec les fantômes? Parce que là, ce qu'elle raconte, Madame Vera, c'est que les fantômes de l'hôtel sont très accueillants et viennent la tenir au courant des différents travaux à réaliser ou des petits soucis qui demanderaient réparation.
C'est des fantômes très prévenants.
Des fantômes très prévenants. Mais le fantôme le plus connu des lieux est sans doute celui d'Elizabeth Wilson, la femme de chambre dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui a visiblement travaillé à l'hôtel jusqu'après sa mort, puisqu'elle continuerait à être vue par certains clients en tant que femme de chambre. Dans un article pour le Point Pop, une journaliste qui a séjourné dans l'hôtel explique que celui-ci est construit majoritairement en bois et que les craquements et bruissements liés aux matériaux de construction donnent, je la cite, « la chair de poule ». Demandant du coup à la guide si la suicidée de la baignoire de Shining était visible, la personne qui organise le tour, qui fait faire le tour de l'hôtel, qui s'appelle, son surnom sans doute, Scary Mary, lui a répondu qu'il n'y a que des fantômes heureux au Stanley Hotel, et je cite encore que ce sont des gens qui reviennent, car ils ont aimé l'hôtel de leur vivant. A noter que Lucie la Vagabonde a vécu au XVIIIe siècle, donc à une époque où le bâtiment n'existait pas encore.
Peut-être qu'elle aimait le terrain.
Peut-être qu'elle aimait le terrain aussi. Pareil, pour le lord irlandais, il n'a pas connu l'hôtel, visiblement. Sur son site internet, l'hôtel Stanley s'est pendant un temps présenté comme le plus hanté d'Amérique. Aujourd'hui, le paranormal a presque disparu du site officiel. Il reste malgré tout un lieu de pèlerinage pour les adeptes du paranormal, et chaque année, il y a plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de personnes qui tentent d'aller observer des fantômes dans le fameux hôtel. L'hôtel entretient lui-même un petit peu le mystère et un petit peu le doute, puisqu'il proposait un forfait aventure fantôme qui a aujourd'hui été renommé en tour historique de nuit, avec à la clé des goodies, un lecteur de champs magnétiques pour dénicher les fantômes et une nuit dans une chambre réputée hantée. Dans le bar de l'hôtel, vous pourrez même déguster un cocktail Red Rum, c'est dire. Mais il ne faut pas non plus s'attendre à revoir des lieux connus dans l'hôtel Stanley, puisque dans Shining, les scènes tournées en intérieur l'ont été dans des studios à Londres, et pour les plans extérieurs, il s'agirait d'un autre hôtel situé dans l'Oregon. Donc l'hôtel qu'on voit dans le film n'est pas le vrai, et c'est notamment ce qui a fait que Stephen King en a voulu à Kubrick, qui n'a pas apprécié son adaptation, on le rappelle. Mais celui qui démystifie le mieux l'hôtel Stanley, c'est encore peut-être son propriétaire actuel, John Cullen. Lui n'est pas trop là pour l'amour du lieu ou pour son histoire. Il travaille dans l'hôtellerie depuis près de 30 ans, et est fondateur et président du Grand Heritage Hotel Group. Et le Stanley Hotel fait partie en fait de ceux qu'il a rachetés à la fois aux États-Unis et dans le monde. Donc il fait maintenant partie d'un plus grand groupe, d'une sorte de chaîne d'hôtels un peu historiques. Sur le site du Grand Heritage Hotel Group, on peut lire ceci. L'entreprise se concentre sur les propriétés historiques qui souffrent d'un manque de branding et d'une expertise en gestion de boutique. Lui, John Cullen, parle de coïncidence plutôt que de phénomènes paranormaux. Il explique de manière très rationnelle les portes qui claquent et le sentiment de ressentir un courant d'air frais, ou même les craquements par le fait que l'hôtel est vieux, en bois, et que ça fait partie de son charme, tout simplement. Une histoire de télévision, qui s'allumerait toute seule, a pourtant refait la une il y a quelques années au Stanley Hotel. Mais là encore, facile à démystifier. Il s'agissait d'une erreur du technicien qui testait le nouveau réseau de l'hôtel. Il a allumé la télé dans 66 de la centaine de chambres de l'hôtel Stanley, jusqu'à se retrouver sur une chaîne coquine. 66 résidents de l'hôtel ont donc pu assister à des ébats sur leur télévision alors qu'ils n'avaient pas touché à la télécommande.
Effectivement, l'hôtel a besoin d'un gros travail de rebranding et de travail d'image pour s'en sortir, j'ai l'impression.
J'ai l'impression aussi. Même si John Cullen reconnaît lui-même ne pas avoir d'explication pour tout, il assure que la quasi-totalité des phénomènes qui s'y passeraient sont largement dus au hasard. Ceci dit, cela n'empêche pas l'hôtel d'avoir, encore aujourd'hui, une visite guidée de nuit d'1h15 qui, contre $28 par personne, vous propose de partir à la rencontre des gentils fantômes.
Écoute, je vais pas mentir, je la ferai. Merci.
Ouais, j'ai presque envie de la faire aussi.
J'ai l'impression qu'il y a pas de réel mystère autour de cet
Alors.
endroit. On est vraiment sur des histoires qu'on raconte, voilà, pour
Exactement.
entretenir un espèce de lore. Mais ça donne très envie. C'est vraiment pour le coup un endroit où j'aimerais bien partir en vacances. Je pense que l'hôtel est très beau. Déjà, en soi, on peut le dire. L'hôtel est vraiment très très beau de l'extérieur et même à l'intérieur. C'est vraiment un hôtel historique très
À
joli.
l'intérieur, alors l'extérieur est très blanc. C'est du bardage, c'est du bois, c'est du bardage blanc.
Ça ressort bien dans les montagnes
Et
comme ça.
ouais, c'est vrai que ça ressort très bien. Il y a des très 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 belles photos, notamment des photos en automne avec toutes les différentes couleurs de feuillage autour qui donnent des photos absolument magnifiques. Il a vu sur un lac. À l'intérieur, les chambres le bois est assez foncé et c'est assez cossu et ça fait vraiment le bourgeois américain du siècle dernier, quoi, du début du siècle dernier, avec du gros bois foncé massif verni. Donc c'est pas voilà, c'est pas une architecture qui fait très actuelle comme ça, mais qui c'est quelque chose un hôtel, enfin des photos que j'en ai vues, qui a énormément de charme et qui ben peut-être aujourd'hui aussi, je sais pas s'il survit uniquement grâce à la réputation qui s'est construite, mais qui est mine de rien encore assez isolé en fait aujourd'hui géographiquement.
Ouais, exactement. Mais c'est ce qui fait son charme aussi en partie. C'est vrai que je pense que au-delà du côté paranormal, etc., ce que le nouveau propriétaire de l'hôtel a envie de vendre, c'est, je pense, justement ce côté un petit peu isolé, au plus près de
Oui.
la nature, tout en ayant le luxe. Bah, en fait, exactement ce qui était fait au tout début du Stanley Hotel, où en fait on faisait venir les gens dans tout le luxe moderne, dans un endroit où on a accès à la nature directement.
Tout à fait, ouais, c'est exactement ça, c'est un côté bucolique, et l'hôtel organise des tours dans la nature en extérieur, et quelques tours du coup de nuit en intérieur, mais j'ai l'impression que le changement de propriétaire a énormément rationalisé l'approche du paranormal de l'hôtel, parce que j'ai l'impression que depuis qu'il est là, le paranormal n'a plus trop trop sa place, je veux dire. Moi-même, en étant allé sur le site, j'ai dû chercher un petit peu aujourd'hui, quoi.
C'est un peu trop niche, je pense,
Ouais.
pour attirer du public à l'hôtel. Tu peux pas faire la réputation de ton hôtel uniquement sur le paranormal, surtout quand t'es un hôtel de cette
C'est
taille-là et
ça.
aussi isolé.
De cette Et puis surtout, ce qui s'adresse à un type de public assez particulier, parce que j'ai regardé au niveau des prix, je crois que ça tourne autour de facilement 220 € par nuit. Donc c'est pas non plus, c'est pas un hôtel qui est à la portée. C'est toujours pas un hôtel qui est à la portée de toutes les bourses. Ça l'était pas déjà à l'époque, sans doute encore moins. Mais aujourd'hui, c'est toujours pas un hôtel qui est à la portée de toutes les bourses. Donc je pense que en effet, miser sur le paranormal quand on a eu une activité, on va dire, de rebranding autour de l'hôtel, c'était peut-être pas la meilleure des solutions. Donc le paranormal aura vécu à l'hôtel Stanley finalement entre bah ouais l'arrivée peut-être du film de Kubrick, puisque je crois que c'est ça, ça a quand même ouais. Ça date peut-être des années 80, et finalement l'arrivée d'un nouveau patron qui a peut-être un peu recadré tout ça.
Puis tu vois qu'ils ont même pas essayé de surfer ne serait-ce qu'un minimum sur Dr. Sleep par exemple.
Oui,
Ils veulent vraiment laisser ça sur le côté quoi.
je me suis posé la question aussi de regarder s'il y avait des choses plus récentes, et en fait ils ont surfé un tout petit peu sur la sortie de la suite de Shining l'Enfant Lumière paru en 2013. Donc le bouquin, finalement, Dr. Sleep, mais pas le film en 2019. En 2013, ils avaient un petit peu surfé dessus, mais pas sur le film. Donc oui.
Ils étaient, ah, on n'est pas sûr, et puis là, le film, ouais, non, non, on va pas faire le film par contre. Bon, bah écoute, du coup, je pense que là, on peut dire que l'affaire est complètement classée,
Exactement, l'affaire est
mais que ça reste
totalement
une bonne
classée.
destination de vacances, si vous en avez les moyens, ça peut être une belle destination. Mystère à Silver Plume. Petite ville perchée dans les montagnes du Colorado, Silver Plume est nimbée de mystères. Il y a là les anciennes mines de la ruée vers l'or, une triste légende, le soupçon d'un complot gouvernemental, et surtout une double disparition qui trouble encore 32 ans après les faits. Dans les premières minutes de Shining, dont on parlait juste avant, Jack Torrance et sa famille roulent sur une route isolée, coincée au milieu des montagnes. C'est sur une de ces routes sinueuses, entourées de nature, typique du Colorado, que commence cette histoire. À bord de ce véhicule qui traverse les rocheuses, les fameuses Rocky Mountains, se trouve un homme seul. En ce mois de juin 1988, Keith Reinhard, 49 ans, vient de quitter son village d'Algonquin, dans les environs de Chicago. Père de deux enfants, marié avec sa chère Caroline, Keith est journaliste sportif pour le Daily Herald, mais il rêve d'une autre vie. À l'approche de la cinquantaine, il a besoin d'un grand changement. Il y a d'abord cette envie de monter un petit commerce qu'il pourrait tenir après sa retraite, ce besoin de se reconnecter à la nature aussi, et surtout, ce désir profond d'enfin réussir à écrire un livre. Lorsqu'un ami de longue date lui propose de venir s'installer pour quelque temps dans le Colorado, il saute le pas. Keith Reynard prend un congé de 3 mois au Daily Herald, laisse à Chicago femme et enfant, et fonce vers cette perspective d'une nouvelle vie qui s'ouvre à lui. À 75 km de Denver, au cœur des Rocheuses, tout près de Georgetown, se trouve le village de Silver Plume. Fondé au 19e siècle, pendant la grande ruée vers l'or du Colorado, Silver Plume abritait, comme son nom l'indique, principalement des mines d'argent. Cela a suffi à attirer les Américains en quête de fortune, mais seulement pour un temps. En 1893, lorsque l'argent a été fortement dévalué au profit de l'or partout à travers le pays, la ville a subitement perdu ses habitants. Lorsque Keith Reynard arrive sur place, en juin 1988, Silver Plume est un village quasi fantôme de moins de 200 habitants. Sur la petite rue principale, il ne trouve que quelques boutiques, un café, et des locaux fermés. Son ami Ted Parker tient le café du coin. C'est lui qui lui a proposé de venir et de lui louer le local commercial qui jouxte son bar. Keith Reynard s'installe alors dans un petit appartement qui jouxte une vieille église abandonnée et décide d'ouvrir son petit commerce pour la saison d'été. Ce sera un magasin d'antiquités et de cartes postales. Photographe, Keith réalisera lui-même des clichés de la région et les imprimera pour les éventuels touristes. Espérant un succès, il se dit qu'il pourrait bien refaire sa vie ici et s'y installer, pourquoi pas, définitivement avec sa famille. Le grand air, une petite boutique pour ses vieux jours, du calme pour écrire un livre, tout semble réuni pour que l'aventure de Keith Reynard soit parfaite. D'autant plus que Silver Plume regorge de mystères, ce qui est parfait pour faire galoper son imagination. Avec ses vieilles devantures décrépites et sa nature environnante, presque oppressante tant les montagnes ceinturent le village, Silver Plume a cette atmosphère typique des romans de Stephen King. Si la série ne sortira que 2 ans plus tard, on pense aussi à une ambiance à la Twin Peaks de David Lynch. Silver Plume a son inquiétante légende, son histoire de fantôme, celle de Clifford Griffin, bien connue des habitants de la région. La voici, telle qu'elle a été racontée par le Loveland Reporter Herald. Ce jeune Anglais était un des premiers mineurs à être venu s'installer dans la région de Silver Plume. On en connaissait très peu sur lui, si ce n'est que sa fiancée avait été retrouvée morte la veille de leur mariage. Griffin était venu dans les Rocheuses pour se lancer dans la prospection minière et tenter d'oublier son triste passé. Le jeune Anglais devint très vite un des propriétaires de mines les plus fortunés de la région. Mais rien, toutefois, ne lui fit oublier la mort de sa fiancée. Il prit ses distances avec les mineurs et leurs familles. Sur un pan de la montagne, près de sa mine, Griffin construisit une simple cabane. Son seul compagnon était un violon. La triste musique s'écoulait le long de la montagne, jusqu'au village de Silver Plume. Les mineurs et leurs familles sortaient de chez eux pour observer le musicien sur la montagne. Parfois, ils lui réclamaient un morceau en particulier. Juste en face de sa cabane, Griffin creusa une tombe dans la pierre. Par une soirée de printemps en 1887, il joua particulièrement bien. Les mineurs applaudirent, et soudainement, la détonation d'un revolver résonna à travers les montagnes. Les mineurs se précipitèrent vers la mine et découvrirent Clifford Griffin, le visage contre terre dans sa tombe de pierre, avec une balle en plein cœur. Fin de la légende. Était-ce un suicide? Était-ce un meurtre? Est-ce que ça s'est seulement vraiment produit? Mystère. Mais il se dit que certains soirs, au crépuscule, quand le soleil commence à laisser place à l'obscurité, on peut encore entendre Griffin jouer du violon près de sa mine. En plus de l'histoire de Clifford Griffin, Silver Plume a également un passé avec une société secrète. Le café de Ted Parker, l'ami de Keith Reynard, s'appelle le KP Coffee. Et le nom est loin d'être anodin. Le commerce, tout comme celui de Keith, se trouve dans une ancienne loge des Knights of Pythias. D'où le KP de KP Coffee. Les Chevaliers de Pythias sont une société secrète, créée en 1864 à Washington, qui a notamment compté parmi ses membres le président Franklin Delano Roosevelt. Si cela semble très mystérieux, pour être tout à fait honnête, les Chevaliers de Pythias ne sont pas une société si secrète que ça. L'ordre a été le premier à être connu par le Congrès américain, et il existe encore aujourd'hui dans 20 États des États-Unis, et même à l'international. Comme les francs-maçons du Grand Orient de France, ils ont un site officiel. Il est possible d'entrer en contact avec les loges. Les Chevaliers de Pythias sont aussi à la tête d'une charité bien connue, l'American Cancer Society, et ils ne semblent pas vraiment versés dans les messes noires. Au contraire, leurs mots d'ordre sont amitié, charité et bienveillance. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas ce mystère qui intrigue le plus Keith Reynard à son arrivée à Silver Plume. Le journaliste sportif est davantage intéressé par Tom Young, un homme qui a disparu à Silver Plume le 9 septembre 1987, soit seulement 9 mois plus tôt. Et si Keith est particulièrement fasciné par cette histoire de disparition, c'est en partie parce que Tom Young était le précédent locataire du local qui abrite sa boutique. Ancien professeur à Arvada, dans le Colorado, Tom Young était arrivé à Silver Plume en 1969 et avait créé la librairie du village, juste à côté du KP Coffee. Cet homme de lettres, connu pour son activisme politique, était un personnage singulier. Globalement apprécié, il n'était pourtant pas quelqu'un de très sociable. Il semblait bien plus proche de son chien Gus, un labrador retriever noir. Les autres habitants de Silver Plume le voyaient souvent se balader avec lui, et il s'étonnait parfois du jouet qu'il lui lançait. En guise de babale pour Gus, Tom Young utilisait une tête de grosse poupée. Parfois, il sortait le soir avec son chien et se baladait près des montagnes environnantes. Un jour, cet homme et son chien disparurent sans laisser de traces. Le 9 septembre 1987, Tom Young ferme sa librairie et se dirige avec son chien vers les montagnes. Ils n'en reviendront jamais. Avant de partir, Tom avait indiqué à quelques-unes de ses connaissances qu'il comptait partir en voyage en Europe. Toutefois, aucun ticket vers quelque destination que ce soit n'a été retrouvé, ni la moindre réservation. Et sa Chevrolet Blazer, qu'il aurait dû prendre pour se rendre à l'aéroport de Denver, était toujours garée devant chez lui. Malgré cela, personne ne s'était inquiété de son absence pendant 3 semaines, le pensant en Europe. Après une aussi grande période de temps sans recherche, il fallait se rendre à l'évidence. Tom et son chien étaient sans doute morts, quelque part dans les montagnes. Dès ses premiers jours à Silver Plume, il apparaît que Tom Young obsède Keith Reynard. Lorsqu'il vient boire des verres au KP Coffee, il ne cesse de poser des questions aux personnes qui l'ont connu, et assure à qui veut l'entendre qu'il va percer le mystère de sa disparition. Pour lui, l'histoire de Tom Young est un sujet en or pour le livre qu'il voulait écrire. Sa fille Tiffany imaginera, quelques années plus tard, dans l'émission Unsolved Mysteries, que Keith Reynard s'est sans doute trop plongé dans cette affaire. Voici ses propos, lourds de sous-entendus. Les écrivains aiment vivre l'histoire qu'ils racontent, la ressentir, car c'est ensuite plus facile pour eux de l'écrire. Peut-être que mon père, c'est une possibilité, voulait ressentir ce que cela fait de disparaître pour écrire là-dessus. Keith Reynard commence, peu après son arrivée à Silver Plume, à plancher sur un roman. Son personnage principal, Guy Gypsum, est un mélange entre lui et Tom Young, un homme qui vit dans une petite ville du Colorado et qui finira happé par l'appel de la montagne. Le 31 juillet 1988, 10 mois après la disparition de Tom Young, 2 chasseurs trouvent des ossements à quelques kilomètres au nord de Silver Plume. Un homme et un chien, Tom Young et Gus. Tous deux ont reçu une balle dans la tête. Dave Doenhore, du bureau du shérif du comté de Clear Creek, a raconté cette découverte à la télévision américaine. Je le cite. « Ils étaient en train de faire du repérage pour l'ouverture de la saison de la chasse à l'arc, et ils ont trouvé ses restes. Sur les lieux, ils ont aussi trouvé un revolver. L'enquête a montré que Tom avait acheté un revolver, approximativement 4 jours avant la dernière fois qu'il a été vu à Silver Plume. L'affaire Tom Young a été classée et considérée comme un suicide, à la fois par le bureau du médecin légiste et le shérif du comté de Clear Creek. » Seulement voilà, tout le monde ne croit pas à la thèse du suicide, pour 2 raisons. La première, c'est que Tom adorait son chien Gus, et que ceux qui l'ont connu imaginent mal comment il aurait pu l'abattre. Il y a une deuxième chose, c'est qu'il n'a jamais été prouvé avec certitude que le revolver retrouvé près de la dépouille de Tom Young était celui qui l'avait tué. L'arme était dans un très mauvais état, et les analystes n'ont pas pu démontrer à 100% qu'elles avaient contenu les balles qui ont abattu Tom et son chien. C'est un détail qui laisse planer le doute, et qui va hanter Keith Reynard. Le 6 août 1988, une semaine après la découverte des corps, le journaliste se rend à une grande soirée organisée par une station de radio au KP Coffee. Ce soir-là, plus de 400 personnes sont présentes et Keith, passablement alcoolisé, n'arrête pas de répéter que Tom Young ne s'est pas suicidé. Le lendemain après-midi, Keith sort de son appartement et va, comme à son habitude, boire un café au bar de son ami Ted Parker. Il lui montre du doigt la montagne Pendleton, un des sommets qui entoure Silver Plume, et lui assure qu'il va aller jusqu'au sommet. Ted, comme la plupart des habitants du village, n'y croit pas vraiment. Keith a notoirement le vertige et il n'aime pas faire de la randonnée tout seul. De plus, il faut 6 heures de marche pour atteindre le sommet, et il est déjà 17 heures passées. Impossible, donc, que son ami monte et redescende avant la tombée de la nuit. Mais c'est pourtant seul, avec des baskets usées, une paire de jeans bleus et une chemise épaisse en flanelle à carreaux rouges et noirs, que Keith Reynard se dirige vers la sortie de Silver Plume. Une main dans la poche, l'autre autour d'une canette de soda, il se dirige vers la montagne Pendleton. Nous sommes le dimanche 7 août 1988, 11 mois après la disparition de Tom Young, et Keith Reynard s'apprête à disparaître à son tour. Son ami Ted va témoigner dans Unsolved Mysteries, et dira ses derniers propos. « Si je ne reviens pas, appelle les secours. » Ted garde en mémoire cette dernière image de son ami en train de pointer la montagne et lui dire au revoir. C'est la dernière fois qu'il l'a vu. Car ce soir-là, Keith Reynard ne rentre pas. Le lendemain, des hélicoptères et des villageois se lancent à sa recherche. En tout, 125 personnes et une douzaine de chiens ratisseront les montagnes environnantes pendant 7 jours. En tout, 12% de ces pentes, particulièrement escarpées, seront passées au crible. Personne n'aura ménagé ses efforts. Les chiens pisteurs devront avoir des bandages sur les pattes à force de chercher dans la rocaille, et un pilote mourra le 12 août 1988, victime d'un crash alors qu'il survolait les montagnes à bord de son Cessna 182. Charlie Szymanski, à la tête de l'Alpine Rescue Team, confiera aux caméras de télévision que la mission était quasi impossible, tant le territoire à couvrir était vaste et dangereux. Je le cite. C'était comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Une botte de foin composée de 900 mètres de dénivelé vertical sur une pente à 60 degrés. Et nous avions un réel désavantage. Car Keith était parti uniquement avec ses jeans, ses baskets et sa chemise. Pas de sac à dos, pas d'équipement. Une recherche classique se fait d'abord en trouvant des indices pour retrouver sa trace. Mais Keith n'avait pas laissé beaucoup d'indices, car il n'en avait pas beaucoup à laisser derrière lui. Désespéré, le bureau du shérif finit même par faire appel à une médium, dans l'espoir de trouver une piste. Alors que les recherches se faisaient jusqu'alors au sud-ouest de Silver Plume, où se trouve la montagne Pendleton, elle indique qu'il faut aussi chercher au nord, près de la zone où avait été retrouvé Tom Young. Les chiens trouveront une odeur et des traces de pas, mais sans pouvoir les associer directement à Keith Reynard. 32 ans plus tard, le corps de Keith n'a toujours pas été retrouvé. En 1990, un épisode de l'émission populaire Unsolved Mysteries attire l'attention sur l'affaire, et la police reçoit environ 270 appels. Mais aucun d'entre eux n'a permis de la résoudre. Un ultime détail, que j'ai souhaité garder pour la fin, rend le mystère encore plus épais. Peu après sa disparition, les amis de Keith ont trouvé un journal sur son bureau. Le gros titre indiquait « Le corps de Tom Young a été retrouvé ». Et sur l'ordinateur de Keith Reynard, ils ont découvert son fameux roman en cours d'écriture. Les dernières phrases tapées sur le fichier de traitement de texte font froid dans le dos. Guy Gypsum enfila des chaussures de randonnée et passa une chemise en flanelle épaisse. Il comprenait Tom à présent. Et sa motivation. Guy ferma la porte, puis se dirigea vers les forêts luxuriantes et sans ombre du Colorado.
Alors, étrange ironie, ou... On est sûr de ces derniers mots sur le...
Ouais, ça a été établi dans quasiment tous les articles que j'ai pu lire sur le sujet. C'est mentionné notamment par les gens qui préparent un documentaire sur cette histoire.
D'accord, c'est le rapport de police qui faisait mention de...
Non, ça c'est pas dans le rapport de police, c'est quelque chose qui a été rapporté après. J'ai pu lire le rapport de police qui a été mis à disposition par des gens qui préparent un documentaire sur cette histoire. Donc je reviendrai un petit peu sur ce qu'il y a dans le rapport de police. Mais en tout cas, non, ce petit détail à la fin que je trouve particulièrement glaçant n'est pas dans le rapport de police. C'est quelque chose qui aurait été trouvé par ses amis, en fait, en fouillant un petit peu dans ses affaires quand ils ont fait du tri, et qui a été rapporté ensuite par la suite. Donc okay. C'est des propos de ses amis qui ont rapporté à des journalistes. C'était mentionné dans le documentaire de Unsolved Mysteries, qui était sorti en 90, et ce sera rapporté dans le futur documentaire Dark Side of the Mountain, qui était censé sortir en 2017, mais qui ne cesse d'être retardé année après année.
Il a été financé comment, c'était un Kickstarter ou c'était...
Je crois que c'était un crowdfunding.
Ouais, ah, je crois que je l'ai vu passer, ouais. D'accord.
Et ça a l'air vraiment fascinant, j'en parlerai un petit peu à la fin, mais c'est vrai que c'est un doc qui a l'air vraiment bien fait. En tout cas, même s'il n'est toujours pas terminé, je peux déjà à ce stade-là conseiller de, par exemple, aller s'abonner à la page Facebook de ce documentaire, Dark Side of the Mountain, qui met à jour régulièrement des photos de tournage, des interviews, ou quand ils ont retrouvé les enfants de Keith Reynard pour discuter avec. Donc c'est assez intéressant de les suivre, c'est une affaire qui est toujours en cours, quoi.
Qu'est-ce qui justifie les retards dans la publication du documentaire ?
Très honnêtement, j'en ai pas vraiment idée. Je pense que c'est parce qu'ils arrêtent pas de trouver des choses au fur et à mesure et que peut-être qu'ils ont du mal à financer la fin du doc. Ça a l'air d'être un truc assez léché, un peu taillé pour Sundance. Donc je pense qu'ils ont peut-être besoin de plus de budget ou qu'ils ont besoin de plus de temps tout simplement pour le faire. Mais ça continue à avancer. Voilà, ça a commencé en 2017, on est en 2020, donc on espère que peut-être en 2021 ce sera présenté. Ce serait pas mal, mais en tout cas j'ai hâte de le voir. Maintenant que j'ai parlé de l'histoire, je pense que ce que tu as envie qu'on fasse, c'est qu'on entre dans les théories.
Ouais, je suis surtout curieux d'avoir si tu en as une et si tu vas la raconter. Il y en a déjà plusieurs des théories, j'imagine.
Ouais, il y en a plusieurs. La première, elle est évidente, un suicide ou une disparition volontaire. Ces deux théories qui sont plutôt recevables. Alors, pour ça, on va partir sur la personnalité de Keith Reynard. C'est quelqu'un qui n'était pas bien dans sa peau. Il allait fêter ses 50 ans le 10 septembre et il le vivait assez mal. C'est pour ça, d'ailleurs, en fait, ce qu'il fait en partant à Silverplume, ça ressemble un peu à une crise de la cinquantaine, en vrai. Il s'ennuyait dans sa vie, il avait envie de vivre de nouvelles choses, d'aller au plus près de la nature, de se retrouver. Clairement, crise de la cinquantaine. Mais la vie à Silverplume n'a pas du tout été à la hauteur de ses attentes. Sa boutique ne marchait pas. Il savait en fait qu'il pourrait pas s'y installer après son congé de 3 mois, qu'il allait devoir rentrer la queue entre les jambes à Chicago, retourner auprès de sa femme et de ses gosses, et qu'il allait sans doute lui dire qu'il était parti 3 mois pour rien, quoi. Le rapport du shérif, justement, on en parlait, indique que Caroline et Keith s'étaient mariés depuis 2 ans, et que Caroline vivait mal la séparation géographique pendant ces 3 mois. Elle pleurait souvent au téléphone, c'est indiqué, c'est justement son ami, le tenancier du KP Coffee, qui dit ça. Elle pleurait souvent au téléphone et Keith ressortait de ses appels, je cite, déprimé. Caroline était censée venir à Silverplume le 11 août et en apparence Keith s'en réjouissait, mais il a disparu avant. Et il disparaît finalement avant qu'elle constate son échec. Donc il y a aussi ça. Pourtant, Caroline a assuré que son mari n'était pas du tout le genre de personne à faire ça. Elle a dit dans Unsolved Mysteries que voilà, il ne considérait pas le suicide comme une solution à quoi que ce soit, que c'était une personne globalement très optimiste, toujours positive, donc elle ne pense pas qu'il s'est suicidé. En revanche, elle a été surprise par un détail qui montre que sa sortie était un peu différente de celle qu'il a pu faire d'habitude. À ce moment-là de la journée, en fin d'après-midi, si Keith allait se balader, il aurait fait demi-tour pour entrer avant la nuit, mais en plus, c'est qu'il n'avait pas pris son appareil photo avec lui. Alors qu'il avait toujours l'habitude d'avoir un appareil photo sur lui quand il sortait. Et ça, c'est un point qui est un petit peu étonnant dans l'affaire, en tout cas pour ses proches. Ensuite, Dave Dohenhor, donc du bureau du shérif du comté de Clear Creek, explique que oui, Keith Reynard était clairement dans une crise de milieu de vie. Pour lui, c'est pas forcément un suicide, il pense plutôt à une disparition volontaire. C'est son hypothèse à lui, elle n'a pas été validée par qui que ce soit, c'est en tout cas son ressenti, lui en tant que membre du bureau du shérif, il pense ça. Il trouve notamment que plutôt curieux que Keith ait dit à tout le monde qu'il allait à la montagne Pendleton avant de disparaître. Tu vois, si tu comptes vraiment te suicider, pourquoi tu dis à tout le monde que tu vas là-bas? C'est un peu bizarre. Est-ce que ce serait pas un leurre? Il serait allé ailleurs?
Ah oui, pour orienter sur une fausse piste et que les recherches...
Exactement.
Ok, d'accord.
Et Caroline n'est évidemment pas d'accord avec cette piste de la disparition volontaire, puisqu'elle dit que son mari aimait profondément sa famille, qu'il aurait pas pu tout quitter d'un coup, comme ça, tirer un trait totalement sur sa vie. En fait, c'est pourtant ce qu'il a fait pendant 3 mois à Silverplume.
Oui, déjà, oui, c'est vrai. Oui, exactement.
Et il y a un détail que j'ai pas évoqué jusqu'ici, qui va dans le sens de la disparition volontaire, c'est que le soir de la fête, donc la veille de sa disparition, Keith avait beaucoup parlé aussi d'une mystérieuse femme, qui serait probablement originaire de Denver. On sait absolument rien d'elle, cette piste-là n'a pas vraiment été creusée par la police, et même son prénom n'a pas été compris par tout le monde, on sait pas si elle s'appelait Greta ou Gretchen, mais en tout cas, il y a une fille des environs de Denver avec laquelle il était lié. Alors est-ce qu'il est parti avec elle pour refaire sa vie et a fait croire à sa disparition? Pour moi, c'est un petit peu tiré par les cheveux.
Surtout, ça s'est passé à la fin des années 80.
Oui.
On est d'accord. Donc au bout d'un moment, il y a peut-être quelqu'un, aux forces de reportage, d'émissions diffusées à la télé et de tout ce qu'on voit, parce que c'est une affaire qui a été pas mal médiatisée. Personne l'aurait reconnu.
Bah c'est ça qui est étrange. Moi, j'ai du mal à croire à cette histoire de disparition volontaire. Pour tout avouer, ma théorie personnelle sur cette histoire, ce n'est pas qu'il a disparu volontairement. J'ai une autre théorie que je garde pour la toute fin, parce que là, on va rentrer dans une deuxième théorie, qui est celle qui va beaucoup t'intéresser, mon cher Charles. C'est la théorie du complot, c'est la théorie du tuer parce qu'il en savait trop.
Ah,
alors,
wow.
Évidemment. Eh oui, mais c'est une théorie qui est très très
ouais,
répandue.
Enfin, oui,
pour
toujours.
Pas mal de personnes qui se sont penchées, même pour des personnes qui sont vraiment sérieusement penchées sur l'affaire, il est impossible pour eux de ne pas faire un lien entre Keith Reynard et Tom Young. D'abord parce que ils tenaient une boutique dans le même local, ensuite ils ont disparu tous les deux dans des circonstances jugées quand même assez mystérieuses, et il y a beaucoup de gens qui pensent, comme Keith le pensait lui-même, que Tom a été assassiné.
D'accord. Et ça faisait quelle taille, ce village, Silverplume?
C'est tout petit. C'est vraiment, tu imagines, une rue principale.
Ok, d'accord, oui.
Assez petite, avec la moitié des commerces qui sont fermés, en plus.
Ok.
C'est-à-dire qu'il y a vraiment le café, 2-3 boutiques, et la boutique de Keith. Vraiment. Et une église abandonnée. C'est vraiment... Enfin, 200 habitants, c'est pas que la rue principale, c'est 200 habitants sur la rue principale et les petites maisons qu'il y a autour. Donc, c'est vraiment minuscule. Imagine... Je vais citer une référence dans la Drôme. Imagine la grande rue d'Ancône.
Ok, je vois.
Voilà,
il y a plus que 200 personnes à Ancône.
Ouais, imagine ça, mais au milieu des montagnes.
Ok, d'accord.
Voilà. Donc, il n'y a pas grand-chose. Je vous invite à googler Ancône si vous n'êtes pas de la Drôme. Mais c'est pour vous dire que c'est petit. Bon, voilà, c'est quand même tout petit. Donc, il y a une théorie qui a émergé là-dessus. C'est est-ce que Keith aurait découvert la raison du meurtre de Tom? Et s'il avait découvert la raison, il aurait potentiellement pu être à son tour supprimé. pour protéger un grand secret. Et cette théorie-là, c'est Tiffany Reinhard, la fille de Kiss, qui l'a défendue dans Unsolved Mysteries. Pour elle, il y a quelque chose qui se cachait sous la disparition de son père, et il avait dû, je la cite, « découvrir quelque chose ».
Ah, en préambule, je précise, c'est parce que la pensée m'est venue comme ça, je pense qu'il peut y avoir certaines difficultés à accepter en tant qu'enfant comme ça d'une personne disparue que un de tes parents s'est suicidé peut-être. C'est pas parce que c'est sa fille que le témoignage est plus crédible, non ?
Oui, non, pas du tout. C'est son témoignage à elle. Je voulais le préciser qu'il était défendu notamment par des personnes de sa famille. Voilà. Mais après, ça veut pas dire qu'ils ont raison. C'est en tout cas ce que eux pensent. Je t'ai envoyé un truc, une vidéo, il y a quelques semaines.
Oui.
C'était
une
émission qui s'appelle Lost in the Wild. Et donc, je vais en parler maintenant puisque ça m'a pas mal servi pour cette théorie-là. En janvier 2020, il y a un épisode de l'émission Lost in the Wild, donc diffusé sur Travel Channel, dans laquelle deux journalistes se sont rendus à Silver Plume dans l'espoir de trouver de nouvelles informations. Et comme le bureau du shérif en 1988, ils ont décidé de faire appel à une médium. Alors la séance d'écriture automatique est assez risible, mais
on peut le dire.
Voilà, on peut le dire. Tu l'as vu, c'est assez savoureux. Hein, on est vraiment sur du ridicule. De toute façon, l'intégralité de cet épisode de Lost in the Wild est assez ridicule, mais pour diverses raisons. Donc c'est pour ça qu'il ne sera pas dans mes recommandations. Je ne recommande pas cet épisode, mais c'est pas inintéressant pour apprendre 2-3 trucs. Enfin, pour se remettre en mémoire 2-3 trucs, parce que comme tu vas le voir, en fait, ils ont rien découvert. Au cours de cette séance d'écriture, donc assez risible, la médium a donné plusieurs pistes, et selon elle, l'esprit de Tom serait apparu en rêve ou vision à Kiss. Il aurait, je cite la médium, influencé son âme, et elle en est sûr à 100%. Là aussi, je la cite. Sûr à 100%. 100%. J'en suis sûr. Elle affirme aussi que Tom ne s'est pas suicidé. Selon elle, si Tom a acheté un revolver, ce n'était pas pour se suicider, mais pour se protéger. Car les esprits, visiblement, qui avaient à ce moment-là, quand elle faisait sa prédiction, lui ont soufflé que Tom avait découvert une sinistre affaire qui impliquait le gouvernement américain. En réalité, cette médium-là n'a pas vraiment eu besoin d'invoquer des âmes pour trouver cette théorie, puisqu'elle était déjà très populaire dans les années 90. Elle était même explicitement citée dans un article du Chicago Sun en 1998. En fait, tout part d'un livre de Mike Eccles, sorti en 1996, Brother Tony's Boys. C'est un livre sur un des pires pédophiles des États-Unis, et ce journaliste, Mike Eccles, journaliste indépendant, évoquait brièvement dans ce livre, ça n'a rien à voir avec l'histoire principale de ce réseau pédophile, mais il évoquait dedans, à un moment, une affaire d'enfouissement illégal de déchets nucléaires dans les Rocheuses. Et il révélait dans son livre qu'il avait partagé l'information avec deux personnes, une amie autrice freelance, Sarah Lady, et Tom Young, qui était alors libraire à Silver Plume. Et dans Lost in the Wild, et c'est une des qualités qu'on peut reconnaître à cet épisode, on en apprend un petit peu plus sur Tom Young. On apprend qu'avant d'être professeur, il avait été médecin dans l'armée. Et dans les années 60, Tom Young était en poste en Allemagne de l'Ouest. Le hasard fait que Kiss Reinhard était lui aussi en Allemagne à la même époque. Mais bon, pour moi, c'est un détail, de toute façon, ils auraient pu se rencontrer à de nombreuses reprises, puisque avant de s'installer à Silver Plume, Kiss était déjà venu rendre visite plusieurs fois à son ami Ted Parker, et ce au cours des 12 années précédentes. Et comme la librairie était juste à côté du café, même s'ils se connaissaient pas, ils se sont forcément croisés. Je rappelle que le village est tout petit, tu vas rendre visite à ton ami qui est au café, le voisin c'est la librairie, forcément tu l'as croisé une ou deux fois en 12 ans, quoi.
Ce qui, je pense, met la puce à l'oreille de certaines personnes, ou excite un peu leur imagination, c'est qu'ils ont peut-être vécu en Allemagne au même moment, puis après il allait justement dans ce village où Tom Young a vécu aussi, donc ça aurait pu être pour le rencontrer, ça aurait pu être pour voilà, et que c'est finalement quand il est décédé que l'autre s'est installé à Silver Plume.
Pourquoi pas ? Mais c'est pas la... Enfin, quand on part sur la théorie de tuer parce qu'il en savait trop, ce n'est pas la piste principale.
D'accord.
La piste principale, c'est que Tom Young était expert en armes nucléaires. Le saviez-tu ? Et justement, les déchets qui avaient été enfouis proviendraient d'une station, Rocky Flats Plant, qui était située à une vingtaine de kilomètres de Denver. Et ce complexe, qui a été utilisé en 52 à 92, abritait une zone d'extraction de plutonium, qui était ensuite envoyé à d'autres centres pour fabriquer des armes nucléaires. Et il a été confirmé que ce complexe en particulier a causé une vaste contamination dans la région. On a eu deux incendies dus au plutonium, en 57 et en 69, qui ont touché tous les environs de Denver jusque dans les Rocheuses. Un des informateurs de Mike Eccles, donc le journaliste, c'était Roger Holman, un ancien mécanicien. Et cet homme-là, il assure avoir vu une nuit des gens de Rocky Flats s'approcher des montagnes qui entourent Silver Plume à bord d'un camion lourd. Ils étaient vêtus de tenues de protection intégrale, ils auraient déposé quelque chose dans une ancienne mine, et selon Roger Holman, qui a été interviewé d'ailleurs dans Lost in the Wild, les disparitions de qui cet homme sont forcément liées à cette histoire. Tom, en tant qu'expert en armes nucléaires et activiste politique notoire, il aurait pu enquêter sur les agissements des employés de Rocky Flats, essayer d'aller plus loin que Mike Eccles. Et il aurait été liquidé pour ça. Et à ce moment-là, Kiss aurait découvert toute cette histoire, toutes les raisons de la mort de Tom, il aurait découvert en gros le dossier secret qu'il ne fallait pas connaître, et il aurait été à son tour éliminé. Dans Lost in the Wild, les deux journalistes vont fouiller les mines autour des montagnes. Et ils trouvent un trou, près duquel leur compteur GGR commence à s'affoler. Alors eux, ils s'en vont en catastrophe parce qu'ils trouvent ça vraiment trop dangereux, donc évidemment, ils ne vont pas vérifier. D'ailleurs, ils ne préviennent pas la police, ni aucun organisme habilité à ça, ce qui me paraît assez absurde. Mais pour la journaliste de l'émission, ça prouve qu'il y a bien des déchets enterrés là. Ce qui me paraît être quand même assez... aller un petit peu vite en besogne. Mais bon, il faut préciser de toute façon qu'on trouve des traces de plutonium et d'américium dans la région à cause des contaminations des années 50 et 60, justement. C'est pas rare aujourd'hui de trouver des taux de radiation élevés dans certaines cavités. C'est en fait des conséquences de ces accidents qu'il y a eu dans les années 50 et 60. Donc tu l'auras compris, cette théorie, elle a beau être plutôt séduisante, elle active aussi tout un imaginaire de théorie du complot, les gens en combinaison intégrale qui arrivent dans la nuit avec un camion pour mettre un truc dans la montagne. Elle fonctionne pas, en fait. Parce que Mike Eccles n'a pas été tué, déjà. Il est mort en 2003 d'une maladie. Sarah Lady n'a pas été tuée. Roger Holman n'a pas été tué. Et les découvertes de Mike Eccles, eh ben, elles sont dans son livre. Donc je vois mal pourquoi Tom Young aurait été tué et pas les autres. À moins qu'il y ait eu un secret encore plus grave, mais ça, c'est impossible de le savoir, à moins de nous aussi nous faire liquider comme Keith Reynard. Donc, voilà, pour moi, elle tient pas trop, cette théorie du tué parce qu'il en savait trop. Et puis, pourquoi est-ce qu'il aurait dit qu'il partait vers la montagne Pendleton, en fait, parce qu'elle se trouve au sud-ouest de Silver Plume, cette montagne, et le corps de Tom Young, il a été retrouvé à 2,5 miles au nord de la ville. C'est pas la bonne direction. On peut pas dire que Kiss a cherché à aller sur les pas de Tom Young, en fait. Donc c'est, voilà. Cette théorie, elle est très séduisante, mais moi, elle me convainc pas. Après, je conçois que on puisse creuser encore plus loin, trouver tous les liens qu'il y a entre ces deux hommes, mais voilà, moi j'ai du mal à croire, en tout cas à cette version-là, qui est la théorie principale, de « il aurait été tué parce qu'il en savait trop sur ses enfouissements nucléaires ». La dernière théorie, c'est celle d'un bête accident, tout simplement. Et ça pourrait être décevant que ce soit ça, mais dans Lost in the Wild, en fait, le duo de journalistes va refaire le trajet qu'aurait potentiellement fait Kiss. Ils partent eux aussi à 17h30, à la même période de l'année. Déjà, ils constatent qu'il y a des ours dans le coin, c'est quand même un peu angoissant. Et ils voient que le trajet est très difficile, et que la nuit commence à tomber bien avant qu'on arrive au sommet. Donc la thèse de l'accident est possible. Ils émettent l'hypothèse dans l'émission que Keith Reynard soit tombé dans une ancienne mine abandonnée qui était sur son chemin. Par contre, ils descendent en rappel dans un trou qui suspecte être l'endroit où il aurait pu tomber et ils trouvent pas d'ossements. Mais bon, il y a plein de cavités dans la montagne, donc en fait ils pourraient être dans n'importe laquelle. Et puis je rappelle que 12% de la montagne a été passée au peigne fin et que c'était quasi impossible de passer au peigne fin toute la montagne. Donc il y a énormément de cavités qui n'ont pas été vérifiées et qui seront sans doute jamais vérifiées. Je rappelle aussi, pour aller dans la thèse de l'accident, que Keith Reynard était en gueule de bois le jour de sa disparition. Il avait fait la fête jusqu'à 4h du mat le jour même, donc cette fameuse soirée que j'évoquais tout à l'heure. Et en pleine gueule de bois, on maîtrise mal ses mouvements, on n'est pas forcément très attentif, on peut chuter, on est fatigué. Le rapport du shérif indique qu'il avait déjà tenté par le passé d'aller au sommet de la montagne plusieurs fois sans succès. Et Reynard avait envoyé aussi une lettre à sa femme, dans laquelle il disait qu'il allait retenter l'ascension de Pendleton. Clairement, là, ça ressemble à une idée d'un mec en gueule de bois un dimanche, qui se dit « Allez, cette fois-ci, je vais le tenter ». Le rapport a dit que partir sans équipement, à une heure tardive, était quelque chose qui n'aurait pas surpris ses proches, puisque apparemment Keith Reynard était un peu stupide sur certaines choses. En tout cas, la police dit que ce move, quand même complètement absurde de partir dans une montagne qu'on n'a jamais réussi à monter à 17h30, ça collait avec son caractère. Je cite le rapport de police, ça collait avec son caractère. Et en plus, Keith Reynard fumait du cannabis, on en a retrouvé chez lui. Donc cette idée d'aller dans la montagne à 17h30 sans équipement, ça ressemble vraiment bien à une idée de mec qui est parti dans son trip. Donc voilà, la théorie de l'accident, pour moi, elle est plausible.
Ouais.
Ma théorie, c'est un peu un mélange de plusieurs choses que j'ai énoncées jusque-là. C'est la mienne, donc elle sera pas forcément... Voilà, elle m'appartient, enfin je pense qu'elle est partagée par d'autres gens, mais en tout cas, j'ai pas la vérité sur cette affaire. Personne n'aura la vérité, d'ailleurs je te spoil dès maintenant, l'affaire ne sera pas classée.
Ouais.
C'est impossible de classer cette affaire. Pour moi, Tom Young s'est suicidé. Il a emporté avec lui son seul ami, son chien Gus, donc ce serait une espèce de suicide altruiste, comme on dit, tu vois, quand tu tues tes proches en te donnant la mort.
On appelle ça un suicide altruiste ?
Ouais, alors j'aime pas cette expression.
Ah ouais, c'est bizarre,
mais,
ouais.
Ouais, mais visiblement, elle est assez employée, en tout cas, dans quelques articles, sur ces phénomènes où un mec tue toute sa famille et ensuite se suicide.
D'accord.
J'ai souvent vu cette expression, alors elle est peut-être pas tellement bonne, mais en tout cas, voilà, c'est dans d'autres articles que j'ai vus sur Tom Jung, c'est ces mots-là qui sont utilisés aussi, donc je permets de les réutiliser, mais enfin voilà, si c'est pas les bons mots, n'hésitez pas à nous le faire remarquer, je suis pas expert dans ce genre de choses-là. En tout cas, voilà, c'est tout à fait possible qu'il ait emporté avec lui son seul ami, qui était son chien, en sautant la vie. Keith Reinhard, lui, c'est un autre cas, il est déprimé, en pleine crise de la cinquantaine, il s'accroche à cette histoire, il a potentiellement trouvé cette théorie sur « il en savait trop ». Et moi, ce que je pense, c'est qu'il a découvert cette théorie sur « Tom Jung en savait trop » et qu'il est devenu complètement obsédé par cette hypothèse. Et justement, la dernière phrase de son manuscrit, qui est très mystérieuse, elle fait référence à ça, mais elle ressemble aussi à ce que pourrait écrire un type qui est à fond dans son délire, qui penserait vraiment avoir compris quelque chose qui n'existait pas. Genre qui écrit ça juste avant de partir, sur un coup de tête, mode « il avait tout compris à présent, il est parti dans la montagne ». Vraiment, ça ressemble vraiment à ça. À un mec qui pense avoir découvert quelque chose alors que pas du tout, et qui part.
Oui, puis
il va avoir malheureusement un accident.
Quelqu'un qui aurait vraiment, enfin qui aurait compris quelque chose de réel, prendrait peut-être des dispositions pour faire en sorte que justement, il a un ordinateur avec un traitement de texte ou les trucs comme ça, pour écrire ça au cas où il y a un souci, voilà. Justement. Et laisser une trace et en laisser une preuve, quelque chose comme ça.
Donc voilà, moi, pour moi, la théorie, c'est ça, c'est que Keith Reinhard est devenu obsédé par cette hypothèse-là, et que. Il y a ce côté-là, donc ça explique ça expliquerait le texte, qu'il était complètement obsédé par l'affaire, et que donc du coup il écrit ce texte-là où il s'imagine en train d'aller vers la montagne. Mais pour moi, le dimanche, il ne part pas nécessairement sur les traces de Tom.
D'accord.
Pour moi, il part effectivement vers la montagne Pendleton, qu'il voulait gravir depuis longtemps, le rapport du shérif nous le dit, la lettre à sa femme nous le dit, et à mon avis, il meurt tout simplement en faisant une mauvaise chute. Moi, mon avis, c'est que ses os sont quelque part, dans une des nombreuses crevasses de la montagne, et que c'est malheureusement un accident. Qu'en fait, voilà, il y a deux choses. Il a eu un accident, et effectivement, il était obsédé par l'histoire de Tom Jung. C'est uniquement ce que j'en dis, moi. C'est, le mystère, aujourd'hui, n'est pas résolu, l'affaire n'est pas classée. Et c'est pour ça que j'ai très hâte de voir le documentaire, en fait. Le documentaire donc, qui est réalisé par Eric Walter, c'était le mec qui avait fait My Amityville Horror en 2012, où il était allé interviewer directement Daniel Lutz, un des mecs qui avait vécu dans la maison. Donc voilà, le documentaire, je disais tout à l'heure, était prévu pour 2017, il était censé sortir en festival cette année. Malheureusement, vu les circonstances actuelles, ça ne se fait pas, donc c'est pour ça que j'espère l'année prochaine. Et la promesse de ce documentaire, c'est de présenter toutes les théories sur la double disparition, avec des interviews des proches de Reinhard, avec des documents inédits, donc auxquels on n'a pas encore eu accès, et ça m'intéresse vraiment. Et aussi des images réalisées par Reinhard lui-même, puisque je rappelle qu'il était photographe. Et surtout, le fameux manuscrit en question, puisque nous, on ne connaît que la phrase finale. Mais du coup, on va peut-être pouvoir découvrir ce qu'il a écrit avant cette phrase finale. Et ça aussi, c'est intéressant. Donc voilà, le rapport du shérif sur la disparition est dispo sur le site du documentaire. Donc si vous voulez le consulter, allez-y. Et comme je le disais tout à l'heure, voilà, il poste souvent des trucs sur Facebook. C'est là que j'ai appris notamment que sa fille, Tiffany, donc qui croit à la théorie sur laquelle elle était tuée, parce qu'il en savait trop, continue les recherches de son côté. Encore aujourd'hui. Donc voilà. Et donc voilà, vraiment vivement que le doc sorte, quoi. Parce que j'ai vraiment hâte d'y voir un peu plus clair, même si je suis pas sûr qu'on y voit vraiment totalement clair un jour sur cette affaire.
Eh bah, ben très bien. Bah alors on ne classe pas l'affaire et on laisse ouvert le dossier sur le bureau. Eh ben. Merci Mathias. Après cette longue histoire, je crois que c'est l'histoire la plus longue.
Je suis un peu emballé.
Je crois que c'est l'histoire la plus longue de l'histoire du Bureau des Mystères.
J'arrête pas de dire que sur cette nouvelle formule, on creuse plus les histoires.
Ah ouais, mais là,
je pense que là, je suis allé un peu trop loin. Je voudrais un peu trop creuser.
Surtout, c'était pas trop concerné. On connaît grosso modo les histoires, mais on n'avait pas du tout capté qu'elles se passaient. Nos deux histoires se passaient dans le Colorado.
Ouais, c'est cocasse.
Rocky Mountains, Colorado. Ok, bon bah voilà. Vous avez.
On s'était mis comme thème lieu de vacances isolé.
Ouais. C'est...
Et on est tombé tous les deux dans le Colorado.
Ouais, voilà, ça colle bien au thème. Hein. Bon, ce sera l'épisode spécial Colorado, que voulez-vous. Ah, mais avant de terminer, du coup, cet épisode spécial Colorado, on vous fait quelques recos, comme d'hab. Et bon, Évidemment, vous vous doutez, je vous ai parlé de l'Overlook Hotel, ou plutôt de l'Hôtel Stanley, mais je vais pas vous recommander Shining, je vais pas vous faire cet affront-là de vous recommander un film de Kubrick de 1980. Allez-y, allez regardez-le de toute façon, puisque vous en aurez besoin pour comprendre le film que je vais vous recommander maintenant, qui s'appelle Doctor Sleep, et qui est la suite directe du film de Kubrick, ou presque. C'est écrit et réalisé par Mike Flanagan, Mike Flanagan, dont on a beaucoup parlé dans Inspiré de faits réels pour ses différents films, hein. Pas mal, que vous pouvez voir sur Netflix d'ailleurs, il a fait quelques films Netflix. Il a aussi fait la série The Haunting of Hill House, dont on avait parlé aussi. Enfin bref, Geralt's Game, des adaptations de Stephen King hein, d'ailleurs, maintenant que j'y pense.
Mais c'est un grand fan de Stephen
King. C'est un grand fan de Stephen King. Et il a sorti, par le concours de deux boîtes de prod, dont Intrépide, il me semble, donc spécialisées dans deux boîtes qui font pas mal de films d'horreur, une qui est plus spécialisée dans le remake des films d'horreur asiatiques, et l'autre qui produit des films d'horreur en général. Il a porté à l'écran, en fait, le bouquin qui fait suite à Shining. À Shining, donc L'Enfant Lumière, le livre de Stephen King sorti en 77, puisque Stephen King a sorti en 2013 une suite à Shining. Alors, c'est une histoire un petit peu compliquée, mine de rien. Parce que, il y a eu le livre de Stephen King. Il y a eu l'adaptation de Kubrick qui n'est pas... Alors, je n'ai pas lu les livres, je le dis tout de suite, je fais que rapporter des choses que j'ai lues et entendues. Le film de Stephen King, qui est un excellent film, n'est pas fidèle à l'œuvre de Stephen King, le film de Kubrick. Il n'est pas forcément...
Ce qui a mis King en colère.
Ce qui a mis Stephen King en colère. Le film dont on parle aujourd'hui, Doctor Sleep, se veut à la fois être l'adaptation de la suite de Shining en tant que bouquin, mais aussi la suite directe de Shining en tant que film.
Ça, c'est casse-gueule.
Et c'est casse-gueule. Et c'est vraiment pas abusé de dire que c'est casse-gueule. Le pari est ultra casse-gueule, puisqu'il va falloir faire coïncider un film original qui n'était pas fidèle à un bouquin et adapter finalement une suite et finalement faire se rencontrer deux manières d'envisager l'adaptation au cinéma en quelque sorte.
En fait, c'est une espèce de réconciliation filmique entre Stephen King et Stanley Kubrick. On essaye de trouver ce qui peut les rassembler.
C'est presque ça, ouais. Film... Ouais, complètement. Puisque d'ailleurs Stephen King a bien aimé Doctor Sleep, donc c'est que il a sans doute été adapté comme il le voulait. Peut-être que pour Stephen King c'était aussi une manière de rattraper quelque chose avec Shining. Je ne sais pas. Toujours est-il que on suit toujours Danny Torrance, donc qui a survécu au premier film Shining, on suit Danny Torrance, mais des années plus tard. En fait, ce qui va se passer, c'est que pendant une bonne partie du film, beaucoup au début, et si je dis pas de bêtises un petit peu aussi à la fin, il va y avoir énormément de flashbacks qui sont en fait des scènes de Shining qui ont été recréées. Au début, je savais pas si c'était des images du film et tout, mais en fait, on se rend compte que c'est pas forcément les mêmes acteurs, ou qu'il y a il y a peut-être une modification numérique qui est apportée pour les faire ressembler, je sais pas trop, je me suis pas trop renseigné là-dessus. Mais toujours est-il qu'il y a des, pour les besoins de la narration, il y a des scènes de Shining qui sont recréées dans Doctor Sleep, du film Shining. Et là, je t'avoue que quand j'ai commencé le film, je me suis dit « Oh shit, dans quoi on s'embarque ?» Et pourtant, ces scènes sont assez classieuses, c'est ouf, mais j'ai l'impression qu'il n'y a que Mike Flanagan qui pouvait faire ça. Ce film, il réussit sans doute du mieux possible la manière dont on pouvait réussir ce pari, à savoir à la fois être cette suite du film de Stanley Kubrick et en même temps être l'adaptation d'un bouquin de Stephen King, eh ben, il y arrive parce que quand il refait les scènes de Shining, Mike Flanagan, il les refait bien. Il les refait bien. Il y a deux, trois fois où, comme pour te dire, j'étais pas sûr de savoir si j'étais en présence d'images du film Shining ou d'une version numérique retravaillée d'images qui ont été retournées carrément, tu vois. J'étais pas sûr de ça. Et c'est plutôt bien intégré à la narration. J'ai trouvé ça assez malin, en fait, de l'intégrer de cette manière-là. Surtout que, aussi, il y a quelque chose aussi pour les fans de Shining de revoir ces images-là, de voir comment elles s'intègrent à cette nouvelle histoire, à Danny Torrance, qui est, du coup, dans le film, est joué par Ewan McGregor. Tu vois, donc, Danny a bien, bien grandi. Et même si c'est un film qui a, à certains moments, on va dire, des scènes que j'ai trouvées vraiment inutiles, et qui rallonge un peu le tout. C'est un film qui est assez long, je crois qu'il fait 2h40, un truc comme ça. C'est peut-être la Director's Cut qui fait 2h45, mais il est vraiment long, et il y a tout un tas de scènes qui étaient pas forcément utiles, et qui nous rappellent aussi que l'adaptation de Kubrick est une excellente adaptation, en fait. peut-être pas du point de vue de Stephen King, mais c'est aussi une excellente adaptation parce qu'elle va droit au but. Et là, c'est pas toujours le cas. Là, on voit, il y a tout un tas de scènes vraiment à différents moments du film où on se dit mais what, enfin. On aurait complètement pu s'en passer, et surtout quand on avance dans le film, on se dit mais en fait cette scène elle n'était pas forcément utile, ça sert à rien de poser le personnage de cette manière-là. Je fais tout pour, pour ne pas spoiler, évidemment. Donc
Fais bien parce que je ne l'ai pas vu, j'ai très envie de le voir maintenant.
Donc je parle peut-être de manière un peu cryptique. Mais en dehors de ces quelques scènes que j'ai trouvées inutiles, je l'ai trouvé classieux dans sa réalisation, je l'ai trouvé assez clair dans son propos. Et même parfois original, quoi, dans sa mise en scène, ou en tous les cas, suffisamment, ouais, c'est ça, c'est Mike Flanagan, mais suffisamment pour que des images qui ressemblent à celles de Kubrick ne fassent pas forcément tache au milieu. Et du coup, bon, il y a une différence, hein, entre ces scènes-là, forcément, mais pas au point où c'est choquant, et voilà, donc c'est un film que je recommande, en fait, complètement, enfin, je sais pas ce qui pourrait vous empêcher de le voir, c'est-à-dire si vous aimez vraiment pas les films d'horreur, ou si vous voulez absolument pas voir de suite de Shining, mais sinon, si vous... je vois pas, si vous avez aimé Shining, je me dis que ça, c'est une autre vision, hein, de l'univers de Shining, c'est pas la vision de Kubrick, c'est une autre vision, et c'est en ça que c'est aussi une suite étrange, mais je l'ai trouvé... j'étais agréablement surpris, en fait. À la fin, j'étais content d'avoir vu ce film. Peut-être parce que je partais avec beaucoup d'a priori négatifs aussi.
Bah, c'est a priori négatif à moi, même si j'ai souvent confiance en Mike Flanagan pour nous sortir des bons films, hein. Je veux dire, Mike Flanagan, je soutiens que c'est de plus en plus déjà un grand nom du cinéma d'horreur, mais qui avait déjà beaucoup de bases dans ses premiers films, notamment The Mirror, que j'ai souvent
défendu. Ouais.
Mais, donc c'est pour ça, malgré le fait que ce soit Mike Flanagan qui soit à la réalisation, je sais pas, j'avais un doute, m'étais pas décidé à le regarder, et là tu m'as donné envie, je pense que je vais me le faire très prochainement.
Honnêtement, je trouve que, encore une fois, hein, il faut vraiment envisager ce film vis-à-vis de la difficulté du pari qu'il était, et ben je trouve que vis-à-vis de ça, il s'en sort vraiment bien.
D'accord. Et puis il y a très bons acteurs dedans, parce que
j'ai vu
qu'il y avait Evan McGregor, oui. Et puis il y a une actrice que j'avais vue dans Mission Impossible qui était super bien, j'ai oublié son nom.
J'ai mangé son nom aussi, mais je crois savoir de laquelle que tu veux parler, qui a un chouette rôle, ouais, en effet.
Avec un chapeau, j'ai vu dans les bandes
annonces. Tout à fait. Voilà.
Exactement. On parle du même personnage. D'accord. Et écoute, comme j'ai visiblement pas assez parlé dans cet épisode, qui est très longue histoire, et je n'ai pas une mais deux recos. Je vais aller assez vite sur ces recommandations. La première, c'est le livre. Avec lequel j'ai appris l'histoire de Keith Reinhardt. Ce livre, c'est Mystères d'écrivain, 50 histoires secrètes et insolites, écrit par Élise Costa et sorti en octobre 2018 chez Armand Collin. Ce livre, j'avais déjà voulu en parler précédemment dans le Bureau des Mystères. Pour être honnête, on avait commencé à enregistrer un deuxième numéro des Rocos du Bureau des Mystères, qui n'a finalement jamais vu le jour. Et il se trouve que ma Roco dans ce numéro était déjà Mystère d'écrivain, 50 histoires et secrètes. Je l'avais prévu, j'avais commencé à écrire un petit peu dessus pour le recommander, et bon, bah voilà, finalement, ça sert à jour, finalement. Élise Costa, c'est une journaliste, elle gérait pendant longtemps les gifs de la semaine sur Mademoiselle, et elle a surtout une vraie passion pour le crime et le fait divers. Elle anime le podcast Fenêtre sur cours chez Arte, et elle a fait aussi, vous l'avez peut-être vu, ça passait sur les réseaux sociaux. À l'été 2018, elle avait fait un feuilleton en story Instagram qui s'appelait Motel Détective et qui était vraiment super bien fait. Donc voilà, et c'est aussi et surtout une chroniqueuse judiciaire pour Slate, site pour lequel elle a fait une série d'articles sur les mystères d'écrivains, d'où ce livre en fait, qui reprend quelques-unes de ses chroniques, on rajoute d'autres, voilà, etc. J'ai beaucoup aimé ce livre, qui parle de faits insolites. Il y a des écrivains, alors il y a pas mal d'histoires assez fascinantes. On a des classiques comme la disparition d'Agatha Christie, mais aussi l'histoire d'un romancier qui avait tué quelqu'un et qui s'était fait prendre à cause des indices qu'il y avait dans ses récits. Je trouve ça fascinant. Des petites anecdotes savoureuses sur Stephen King, voilà. Il y a ce genre de choses à picorer que moi j'aime beaucoup. Et c'est là que j'ai trouvé l'histoire de Keith Reinhardt. En fait, j'étais en train de lire le livre et je me disais, c'est très divertissant, j'aime beaucoup tout ce qui se passe, mais... Je suis pas encore tombé sur un vrai mystère là pendant la lecture, y a pas de truc qui m'a vraiment happé en mode ah putain c'est vraiment bizarre. Et là je tombe sur l'histoire de Keith Reinhardt. Et c'est vraiment celle qui m'a le plus passionné dans le livre, ça m'a donné envie de creuser davantage, et du coup c'est ce que j'ai fait peut-être un peu trop pour cet épisode. Donc voilà, je remercie Élise Costa d'avoir écrit ce livre et de m'avoir fait découvrir grâce à ce livre cette histoire fascinante. Donc voilà, Élise Costa j'aimais bien déjà avant, puisqu'elle avait aussi signé un livre qui s'appelait « Comment je n'ai pas rencontré Britney Spears », qui était un faux roman autobiographique sur sa quête de Britney Spears à travers les États-Unis.
D'accord.
C'était un road trip, voilà, assez cool, vraiment, avec beaucoup d'infos sur la vie et la carrière de Britney Spears. Donc quand on aime la pop culture et la pop tout court comme moi, je sais
Voilà, ça déborde de références. Donc voilà, je conseille aussi ce livre, même si ça a absolument rien à voir avec Keith Reynard. C'est vraiment parfait pour l'été qui arrive, je trouve, comme bouquin. Donc voilà, ces deux livres. Voilà, vous pouvez les embarquer dans votre valise pour les vacances, je trouve ça très bien. Et j'avais une dernière reco, il se trouve que c'est un film, là aussi, mais c'est un film que, bah, un petit peu comme pour Doctor Sleep, je sais pas pourquoi j'ai mis autant de temps à le regarder. C'est Le Dain, de Quentin Dupieux.
Alors, tu vois, c'est à mon tour, je ne l'ai pas vu.
Ah voilà.
Je crois que c'est le dernier film de Quentin Dupieux que j'ai pas vu.
Bah oui, sûrement, ouais, je crois que c'est le dernier.
On en avait vu ensemble au ciné, d'ailleurs, je me souviens.
Oui, on a vu Rubber, on a vu Wrong et Wrong Cops ensemble aussi.
Ouais, ouais.
Ces trois-là. Alors, Quentin Dupieux, c'est un cinéma très spécial, on va dire, à la limite de l'expérimental, souvent très absurde.
Et si c'est je voulais parler... C'est plus absurde qu'expérimental, j'ai l'impression. Rubber, ouais, non, c'est vrai. Rubber, oui, non, c'est vrai, ça va.
Rubber, et puis il y a certains trucs dans Wrong, enfin, il faut s'accrocher un petit peu, je trouve. Même réalité, il y a des scènes qui sont un petit
Qu'est-ce
peu...
Qu'est-ce que je rigole devant réalité, putain.
Ah, réalité formidable. Pour moi, c'est son meilleur film. Et ça tient sans doute au fait qu'il y a un Shabbat dedans. Mais réalité, c'est génial. Donc voilà, le film là dont je vais parler, c'est Le Dain, parce que le sujet du film, je trouve qu'il rejoint un peu l'histoire de Keith Reynard. On suit Jean Dujardin, qui part dans la nature pour changer de vie, et qui devient peu à peu complètement zinzin. Alors, lui, dans le film, c'est visiblement à cause de son blouson en daim, avec lequel il parle, et qui lui fait, je cite, « un look de malade ». J'ai été hypnotisé, en fait, par le film. Il y a un truc chez Dupieux, et il y a une esthétique américaine fantasmée. Il y a vraiment une espèce d'Americana totale qui tient debout, malgré le fait que l'intrigue soit en France.
Il y a plusieurs films que c'est comme ça. Hein.
Mais c'est comme ça depuis Rubber, j'ai l'impression, en fait. Hein. Et encore, non, même avant Rubber, quand tu regardes Steak, il y a déjà une esthétique très américaine.
Il y a un truc
américaine.
Volontairement de ne pas pouvoir situer le lieu dans lequel ça se trouve, ou même l'époque, parfois.
Oui, là, c'est complètement le cas dans Le Dain.
Okay.
On voit que ça se passe en France, puisque tout le monde parle français, et que voilà, les voitures sont françaises, etc. Donc on sait qu'on est dans la campagne française, on ne sait pas où exactement, mais il y a quand même cette esthétique américaine, déjà, parce que le fait que Jean Dujardin s'habille de plus en plus avec des vêtements en daim qui font cow-boy. Donc déjà, il y a ça. Et puis, il y a cet isolement, ce côté un peu désertique qu'on va retrouver. Il y a un côté limite western par moment. C'est assez vraiment bizarre comme film, Le Dain. Et ce que j'aime bien chez Quentin Dupieux, c'est qu'il fait vraiment un cinéma de l'absurde, mais que dans ce film-là en particulier, l'absurde devient inquiétant. On quitte un petit peu l'aspect complètement humoristique qu'il y a dans ses autres films. Je pense notamment à Réalité, voilà, dont on parlait, ou Au Poste, que j'ai vu récemment aussi,
vrai,
et que je trouve assez drôle.
Ouais.
Mais là, on rentre dans quelque chose d'un peu plus dérangeant, dans l'absurde, et c'est un peu rafraîchissant, ça montre qu'il est toujours dans l'absurde, mais qu'il se renouvelle un petit peu là-dessus. Donc je trouvais ça vraiment pas mal. Et c'est surprenant aussi, et ça c'est plus politique, mais de voir dans le même film Jean Dujardin et Adèle Haenel, dans les rôles principaux de ce film, sachant que le film est sorti seulement quelques mois avant la présentation du J'accuse de Polanski à la Mostra de Venise, et donc le début de tout le shitstorm qui a suivi.
Où on rappelle
donc,
que du coup,
shitstorm justifié.
Adèle Haenel s'est opposée au film et Jean Dujardin a défendu le film. Et
voilà.
Il était dedans.
Et quand on voit ce que deviennent les deux personnages dans le film, on peut y voir, tu verras, tu regarderas le film, et il y a une sorte de symbole. Je veux pas spoiler plus, bien sûr. Et de toute façon, je suis même sûr que ce symbole-là n'est même pas conscient de la part de Dupieux, parce que Quentin Dupieux revendique généralement le non-sens total et ne fait pas du cinéma pour être surinterprété. En tout cas, c'est lui le dit. Je sais pas si c'est une posture ou si c'est ce qu'il pense réellement, mais en tout cas, lui dit qu'il ne faut pas surinterpréter son cinéma. Donc voilà. C'est un objet filmique un petit peu étrange, qui dure seulement 1h17. Toute la filmo de Dupieux est assez courte, d'ailleurs. Et celui-là, c'est peut-être un des plus courts. Donc voilà, je conseillerais Le Dain. C'est une expérience à tester. Vous allez voir, c'est bizarre de voir Jean Dujardin parler à son blouson en daim en faisant les deux voix. Mais... Et si vous aimez le cinéma de genre et les côtés un petit peu plus angoissants, c'est le premier film de mémoire de Quentin Dupieux qui va vraiment dans ce terrain-là. Voilà. Aujourd'hui, le seul film de Quentin Dupieux que j'ai pas vu, c'est Non-Film. Je crois que c'est son tout premier film.
Oui, son tout premier. Ouais, en effet.
C'est le seul que j'ai pas vu. Mais bon, je pense que ça doit être intéressant à regarder aussi, vu que j'aime bien tout le reste de sa filmo. Mais voilà, je conseille tout le reste de la filmo, sauf Non-Film que je n'ai pas vu. Du coup, parce que je vais pas vous conseiller un truc que j'ai pas vu. Mais voilà, tout le reste, c'est vraiment formidable, Quentin Dupieux.
Très bien, et écoutez... Il nous reste à vous rappeler que vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur notre page Facebook Charles et Mathias, sur notre compte Twitter @BDM le podcast, et aussi peut-être que vous pouvez aussi vous renseigner, puisque je crois qu'on peut l'annoncer maintenant, mais on sera présent au Bordeaux Geek Fest, c'est le 27 juin prochain qu'on y est. On regarde de vite fait l'agenda.
Alors, je sais, je
c'est
je
le
sais
week-end.
Plus, c'est, le 27 ou, c'est le 27 ou le 28.
Ouais, alors c'est le week-end du 27-28. De toute façon, la programmation au moment. C'est le 27 ?
C'est le 28.
C'est le 28.
Le dimanche 28, l'après-midi.
Dimanche 28 après-midi, on sera présent pour un événement numérique. Si j'ai tout bien compris, ça a l'air très orienté vers les ordinateurs. J'ai pas trop compris, je sais pas si mon ordinateur ne serait-ce capable que d'accéder à cette application, mais normalement, on sera présent pour un live, mais à distance, hein, du coup, forcément, dans les conditions actuelles, un live à distance, un enregistrement, disons, par visioconf, auquel vous pourrez assister.
Et nous poser des questions après.
Et nous poser des questions après. Donc voilà, ce sera le 27 et 28 juin prochain, c'est tout le week-end le Bordeaux Geek Fest, si j'ai bien...
C'est ça, c'est le samedi et le dimanche, et nous on sera présents donc le dimanche après-midi pour cet enregistrement.
Donc voilà, ce sera un enregistrement, on précise, d'inspiré de faits réels aussi.
Un hors-série
d'inspiré de faits réels.
On va pas vous parler d'un film en particulier, enfin vous verrez, on a une petite sélection à vous présenter, on a des choses à vous dire. Avant de clôturer cet épisode, on voulait vous remercier d'avoir été avec nous pour toute cette troisième saison du Bureau des Mystères, qu'on a relancé après plusieurs mois d'absence, et on est ravis de voir que vous avez été au rendez-vous pour nous retrouver, c'était vraiment agréable. Cette troisième saison se termine avec cet épisode, mais ça ne veut pas dire que c'est la fin du Bureau des Mystères, bien évidemment. On se retrouve d'ailleurs très prochainement pour un format spécial pour cet été, avant une reprise pour une quatrième saison du Bureau des Mystères. On ne vous en dit pas plus sur ce format d'été, vous découvrirez vous-même ce que c'est, mais en tout cas, on vous a préparé des petites choses très sympathiques pour passer les deux prochains mois.